journal Loïc Barrière. Un premier cargo transportant du maïs a quitté le port ukrainien d'Odessa. Il est attendu à Tripoli, au Liban. Au Liban, la fête de l'armée célébrée comme chaque année le 1er août, une institution confrontée à des difficultés financières. Entretien avec le journaliste Elias Masbounji. Ce week-end, à l'occasion du discours du trône, le roi du Maroc, Mohamed VI, a une nouvelle fois appelé à des relations fraternelles avec l'Algérie. Enfin, coup de projecteur sur la Fédération nationale des victimes de féminicides. Fondée il y a 2 ans, sa présidente Sylvaine Grévin a été reçue il y a quelques jours par la nouvelle ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Ukraine entame ses exportations de céréales. Un premier chargement a quitté Odessa ce lundi matin, direction le Liban via Istanbul. D'autres convois vont suivre ce premier départ en respectant le couloir maritime et les formalités convenues par l'accord entre l'Ukraine et la Russie. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, salue chaleureusement le départ de ce premier bateau. Ces exportations devraient soulager les pays qui dépendent en grande partie des céréales ukrainiennes, notamment en Afrique et dans le monde arabe. Le Liban a célébré comme chaque 1er août la fête de l'armée, une armée libanaise qui a reçu il y a un mois une aide de 60 millions de dollars de la part du Qatar. L'institution militaire subit de plein fouet la crise qui traverse le Liban. L'an dernier, à l'initiative de la France, une vingtaine de pays ont offert une aide financière à l'armée libanaise pour lui permettre de faire face à ses besoins les plus urgents. Entretien avec le journaliste Elias Masbounji.
L'armée libanaise, bien sûr, est née avec le Liban, mais elle a pris l'habitude de, le 1er août, l'armée a choisi, le commandement de l'armée de l'époque a choisi de célébrer le 1er août la fête de l'armée et de remettre à cette même date les épées aux nouveaux officiers sortis de l'école militaire. Donc c'est une double célébration nationale et pour la fête de l'armée et deuxièmement la remise des épées aux nouveaux officiers qui se déroule le jour même. Cette fête a été célébrée sous divers modules, disons, selon les circonstances. Elle a du temps de l'âge d'or du Liban, c'est-à-dire jusqu'à la guerre civile, et si l'on accepte l'insurrection de 58, il y a toujours eu un défilé militaire sur un boulevard principal de Beyrouth, et avec un peu une image très très réduite de ce qui est célébré en France le 14 juillet, donc les véhicules, un armement, et même à la fin de la fin, une revue d'hélicoptères dans le ciel de Beyrouth. Et depuis un certain temps, il y a eu non pas des mesures d'austérité, mais le cercle défilé est devenu un peu restreint et il se déroule dans la cour de l'école militaire dans la banlieue de Beyrouth, ou juste après la remise par le président de la République des épées aux nouveaux officiers. Donc c'est un défilé symbolique avec, en présence des présidents de la République, de l'Assemblée et du gouvernement, chef du gouvernement. Donc c'est une célébration qui a eu plus ou moins d'éclat selon les circonstances. Aujourd'hui, l'armée libanaise est en très très mauvaise passe. Elle subit les affres de la crise monétaire et financière et de l'instabilité sociale et politique au Liban, mais elle continue courageusement à affronter la réalité à l'intérieur et à l'extérieur, donc le maintien de l'ordre lorsque cela devient nécessaire, et il y a eu des interventions directes au niveau de la sécurité récemment dans plusieurs points du pays, et aussi présence de l'armée à la frontière sud, aux côtés de la FINUL, selon les accords entre le Liban et la FINUL. Et aujourd'hui, c'est devenu un point chaud puisque nous sommes en train de négocier par Washington, si vous voulez, les Américains interposés, le tracé des frontières maritimes entre Liban et Israël pour entamer enfin le forage des énormes réserves de gaz dont un bloc est juste à la frontière. Il y a un litige et il est en train d'être réglé. Il faut du moins l'espérer. Donc l'armée est présente, elle a prouvé sa présence et elle continue à défendre la patrie conformément au serment de chaque soldat, chaque officier, et dans des circonstances difficiles, avec des salaires bien sûr qui ont subi la dévaluation comme tout le monde. Et malgré tout ça, le moral de l'armée n'a pas été entamé, bien au contraire. La troupe est plus que jamais décidée à affronter les réalités de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà les circonstances dans lesquelles l'armée libanaise célèbre aujourd'hui le 1er août.
Et c'est une armée qui reçoit une aide aussi d'autres pays, puisque comme vous l'avez dit, elle est dans un état financier assez difficile.
Bien sûr, elle reçoit d'abord, il y a une aide réelle qui est en matériel et en armement de la France d'un côté et des États-Unis de l'autre. Et il y a le Qatar qui s'est manifesté il n'y a pas très longtemps par un envoi d'une aide alimentaire. Imaginez-vous que l'aide alimentaire est la bienvenue et c'est la première fois dans l'histoire de l'armée que le commandement accepte une aide alimentaire, et ce pour pallier au manque de moyens pour fournir aux soldats les repas et leur assurer une sécurité alimentaire. Et le geste du Qatar est le bienvenu et accepté, alors que c'est vraiment c'est quelque chose qui est nécessaire, étant donné, comme je vous ai dit, les difficultés financières qui se répercutent sur le commandement de l'armée et bien sûr aussi sur les revenus personnels des membres de l'armée.
Elias Masbounji, fondateur de Trilogue News. Toujours au Liban, quelques jours avant le deuxième anniversaire de la double explosion du 4 août 2020, un silo à grains du port de Beyrouth s'est effondré ce dimanche, ce qui a ravivé le traumatisme des victimes de l'explosion. Samedi, Mohamed VI a réitéré sa main tendue à l'Algérie à l'occasion du discours du trône. Le roi du Maroc a dit vouloir œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères. Mohamed VI a appelé les Marocains à préserver l'esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage à l'égard de leurs frères algériens. Et dans son discours, le roi du Maroc a par ailleurs rappelé ses priorités, la réforme du code de la famille en faveur des droits des femmes, la protection sociale, le contrôle des prix et la vaccination pour combattre le Covid-19. En France, encore plusieurs femmes assassinées par leurs compagnons cet été. Dernier féminicide en date. En Nouvelle-Calédonie, une femme de 33 ans a été frappée à mort par son compagnon. C'est la raison pour laquelle a été créée la Fédération nationale des victimes de féminicide. Sa présidente, Sylvaine Grévin, a été reçue il y a quelques jours par Isabelle Rome, la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Sylvaine Grévin nous explique pourquoi elle a créé cette association.
J'ai donc perdu ma sœur Bénédicte en 2017, en avril 2017, qui était depuis de nombreuses années victime de violences conjugales. Donc effectivement, suite à ce décès, j'ai personnellement, ainsi que ma famille, constaté le vide institutionnel concernant l'accompagnement des familles de féminicides. Et durant 2 ans, donc surtout à partir de 2019, puisque j'ai rencontrer d'autres familles où là on s'est dit qu'il y avait nécessairement quelque chose à faire, notamment dans l'accompagnement des victimes féminicides. Donc la FNBF a été créée un an plus tard, donc en octobre 2020.
Alors justement, de quel accompagnement ont besoin les familles de victimes de féminicides?
Alors tout d'abord, les familles victimes de féminicides ont besoin d'un accompagnement psychologique, bien évidemment, puisque dès l'annonce du décès, elles ne sont pas prises en charge malheureusement psychologiquement, toujours à l'heure actuelle. Donc nous intervenons à ce moment-là, dès lors que nous sommes saisis soit directement par la famille, soit par des partenaires avec qui nous travaillons. Et nous mettons en œuvre immédiatement en fait une cellule psychologique par notre psychologue, et nous travaillons également avec une plateforme qui s'appelle Psy & You, qui dans un premier temps peut écouter la famille, puisque la famille se trouve, comme vous l'imaginez, dans une profonde détresse, et notamment suite au décès, bien évidemment, de leurs proches. Et là, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, nous les dirigeons vers notre service juridique, c'est-à-dire que, encore une fois, les familles de féminicides n'ont pas un avocat pénal dans la poche, parce qu'elles ne sont pas déjà préparées à ça, personne n'est préparé à ça. L'objectif est de les diriger vers un autre cabinet d'avocats, hein, spécialisé justement sur les féminicides, de telle façon à ce qu'ils soient parfaitement accompagnés.
La difficulté pour les familles, c'est qu'elles sont confrontées à des auteurs d'assassinats qu'elles connaissent bien, qui ont été des proches.
Tout à fait, tout à fait. Et parfois, alors pas toujours, hein, mais effectivement, parfois vous êtes totalement démunis. D'ailleurs, ça a été notre cas. C'est-à-dire que durant des années, vous voyez, moi j'ai vu ma sœur porter plainte à plusieurs reprises, des plaintes classées sans suite, des plaintes qui ont été suivies des faits avec un auteur condamné. Et surtout, au départ, on vous présente finalement quelqu'un qui, a priori, semble tout à fait disposé à rendre heureuse votre proche, et en fait c'est un leurre. Et vous vous en rendez compte, soit parce que vous sentez que votre sœur ou votre proche finalement change de comportement, s'isole, c'est-à-dire que la victime en fait ne vient plus aux anniversaires, ne vient plus aux fêtes, ne vient plus à toute invitation. Justement parce qu'à un moment donné, vous avez ce stratagème des auteurs aussi qui ont tendance à isoler leurs victimes pour mieux les maîtriser. Et ce qui va se passer, c'est que en tant que famille, eh bien, rien n'est fait pour nous. C'est-à-dire que là, vous êtes totalement démunis. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment peut-on faire pour l'aider ? Pour bien comprendre que les victimes de violences conjugales, à force d'être manipulées, dénigrées, s'opère en elles en fait un dysfonctionnement au niveau de leur cerveau, de leur compréhension psychologique. Et c'est très très compliqué pour des personnes non formées que sont les primo-confidents, c'est-à-dire les parents, les amis, les proches. Donc la seule chose, vous vous dirigez vers la gendarmerie ou les forces de l'ordre, qui eux aussi vous indiquent tant que la personne ne dépose pas plainte, nous on peut rien faire pour vous. Donc en fait, ça s'apparente presque, vous savez, à une secte en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que là vous avez affaire à une personne adulte qui finalement subit des choses terribles, qui est parfois dans l'incapacité de quitter l'auteur, et effectivement vous avez en fait, vous avez déjeuné, vous avez mangé aussi avec cet auteur au départ, parce qu'il semblait bien sous tout rapport. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte qui il est vraiment. Et là, les choses deviennent très, très compliquées.
Il faudrait donc faire évoluer la loi pour que les proches de victimes de violences conjugales puissent éventuellement faire intervenir la justice, même si la victime ne porte pas plainte.
Exactement. Et en fait, alors pour tout vous dire, le siège social de la FNDF se trouve donc à Rennes, et nous avons la chance, en tout cas sur ce département qui est l'Ille-et-Vilaine, d'avoir notamment la juridiction de Rennes, c'est-à-dire le parquet de Rennes, qui a développé il y a déjà quelques temps alors un dispositif qui s'appelle porteur de parole. Et ce dispositif porteur de parole, en fait, est destiné aux proches, aux familles qui finalement, ça peut être aussi même des voisins, qui se rendent compte de quelque chose d'inhabituel chez leurs proches, et qui peuvent déclarer en définitive ce qu'il se passe, de façon à ce que tout de suite le parquet puisse prendre des mesures. C'est-à-dire que là, on passe même pas par la case gendarmerie. Donc là, il y a quelque chose qui est déjà fait sur l'Ille-et-Vilaine. J'ai rencontré lundi Isabelle Rome, hein, qui est la ministre des droits des femmes, je lui ai d'ailleurs parlé de ce dispositif qu'elle connaissait, de façon à ce qu'il soit généralisé sur l'ensemble du territoire français. Donc en fait, c'est vraiment, en tout cas, ce que nous souhaitons, parce que c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Ce dispositif, en fait, c'est un formulaire à remplir, que vous pouvez remplir, en tout cas, sur la préfecture d'Ille-et-Vilaine, ou que vous pouvez donc télécharger et envoyer directement par mail au parquet d'Ille-et-Vilaine. Donc, très peu coûteux, et que l'on pourrait mettre à disposition sur tous les parquets de France. Moi, je pense que un numéro unique permettant de soutenir donc les familles de féminicides serait totalement utile. En tout cas, la FNDF a fait tout un travail dans l'objectif de pouvoir accompagner au niveau national les familles de féminicides.
Il faut augmenter les crédits pour les associations impliquées dans ces questions.
Ah bah très clairement. Là, il y a aussi une grosse question de moyens. Nous aujourd'hui, vous savez, on aura 2 ans d'existence là en octobre 2022. Pour obtenir des subventions, c'est toujours très très compliqué et donc c'est vrai que ça nous impacte très clairement. Nous on a besoin. Aujourd'hui on travaille qu'avec des gens bénévoles. Qu'on demande la majorité des associations, c'est que globalement sur l'ensemble, en tout cas de tout ce qui devrait être fait pour des femmes victimes de violences conjugales et des aides, en tout cas notamment pour les associations, c'est 1 milliard d'euros sur la table.
Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicides. En Italie, un vendeur à la sauvette d'origine nigériane a été battu à mort en pleine rue commerçante à Civitanova, dans la région des Marches. Cela s'est passé vendredi. Un passant a filmé la scène extrêmement violente et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Un drame d'autant plus choquant que personne n'est intervenu pour aider la victime, âgée de 39 ans. La France a vécu le mois de juillet le plus sec depuis 1959, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Le ministre évoque un déficit de précipitations de 88% par rapport à ce qui aurait été nécessaire. Alors que la semaine est marquée par un nouvel épisode de canicule, Christophe Béchu se dit inquiet sur l'accès à l'eau potable avec des villages où il n'y en a plus et où il faut acheminer de l'eau. Autre motif d'inquiétude, la production électrique avec des barrages où il n'y a plus assez d'eau pour tourner. À partir de ce lundi, les mesures sanitaires aux frontières sont levées pour les voyages vers ou depuis la France. Mais le ministre des Transports, Clément Beaune, invite les Français à continuer de lutter contre le Covid-19 avec responsabilité. Il rappelle ainsi que le masque est fortement recommandé dans les transports. Plusieurs changements en ce 1er août du fait de l'inflation. Le SMIC augmente automatiquement de 2,01%. Le taux du livret A est revalorisé avec un taux de 2%. Quant à l'allocation de rentrée scolaire versée fin août sous conditions de ressources, elle fait partie des prestations qui doivent augmenter de 4% dans le cadre du projet de loi pouvoir d'achat. Enfin, la mort de Christophe Izard, le créateur de L'île aux enfants, célèbre programme pour la jeunesse diffusé à la télévision dans les années 70. Il était âgé de 85 ans. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.